Donc, bienvenue dans ce séminaire. Hein. Comme vous le savez, on fait un séminaire mensuel à peu près, hein, tous les mois, dans le cadre de notre boutique des sciences, hein, donc, qui est un dispositif, nous on appelle ça comme ça, de recherche participative. L'intérêt de ce dispositif, c'est d'impulser, et mes collègues vont présenter le dispositif, des projets de recherche participative, mais on a envie d'avoir un lieu de réflexion, de réflexivité un peu sur cette nouvelle façon de faire de la recherche, ça pose quelles questions, etc. Donc, depuis un an, on a ce séminaire, on a abordé déjà plein de choses très différentes, hein. Il y a différents thèmes, différentes méthodes, différents regards dessus. Je vous invite à regarder sur le site de la boutique des sciences, parce qu'en général, elles sont toutes enregistrées. On s'est mis en mode confinement, donc tout est enregistré. Donc, si vous avez envie de réécouter certaines des interventions, n'hésitez pas, faut en profiter. Donc alors, nous, c'était important aussi qu'on parle nous-mêmes. Hein, on a donné pas mal la parole à des opérateurs comme nous, des chercheurs, etc. Mais on voulait aussi un moment un peu de poser sur notre boutique des sciences à nous. Vous voyez donc tout de suite aussi en lien la programmation des hôtes à venir. Donc le 4 février sur la pratique au jardin. Et puis enfin le 4 mars sur instruments voyageurs avec la ville de Villeurbanne. Donc voilà, vous pourrez suivre les autres séances, c'est l'avantage de ces webinaires. Alors pour ce soir, le programme est dense, donc je vais aller vite. Ce qu'on se dit, donc l'idée c'était surtout pour vous, c'était l'idée de vous faire part de notre expérience, et dans une logique plutôt pas du tout promotionnelle, mais plutôt réflexive sur notre boutique des sciences dont nous disposons, notamment à partir d'une étude d'impact qu'on a souhaité faire, et je reviendrai là-dessus, pourquoi une étude d'impact. Alors, l'organisation de la soirée est la suivante, et donc, on va vous représenter la boutique des sciences, parce que bon, certains d'entre vous connaissent bien notre boutique des sciences, mais d'autres un peu moins. Donc, avec Armel Bozoc, qui est donc chargé de projet boutique des sciences. On aura donc une présentation. Il faut fermer vos micros les uns les autres. Monsieur Goyer, je vous entends. Oh là, le Royaume-Uni. Non, on ne parle pas du Royaume-Uni ce soir. Fermez les micros. Il y a une radio quelque part. Voilà, on va pas parler du Royaume-Uni ce soir. Voilà. Donc, on va représenter. Donc, Armel Bozoc, chargé de projet boutique des sciences, va vous représenter la spécificité de notre boutique des sciences en quelques mots. Moi, je vous dirai, donc, en tant que directrice du pôle sciences et sociétés à l'Université de Lyon, je pilote ce dispositif, mais d'autres aussi, pourquoi cette étude d'impact. Hélène Chauveau, qui a la casquette ce soir de postdoctorante, qui a fait cette étude d'impact, donc elle va vous raconter un petit peu la méthodo, comment on a mis ça en place, et puis les résultats. Et il nous est paru important donc qu'on ait aussi des retours d'expérience des différents parties prenantes de ces dispositifs de recherche participative. Donc un étudiant qui a participé à un projet boutique des sciences, une association qui a donc qui a participé aussi à un des projets, enfin qui a fait la demande et a suivi donc un projet boutique des sciences, et ensuite un enseignant chercheur qui a pu encadrer plusieurs stages boutique des sciences. Donc on va faire comme ça, on va avoir une succession de présentations, mais moi j'ai envie qu'on soit dans l'interactivité, donc levez la main, hein, s'il y a des questions, n'hésitez pas, mettez-le dans le chat, ou alors on vous passera la parole. On n'est pas complètement en plénière, même si le format distanciel a ses limites. Comme l'indiquait Hélène, si vous en êtes tous d'accord, on enregistre cette séance, parce qu'après, on va la remettre en ligne. Donc, si vous êtes tous d'accord, on l'enregistrera. OK ? Alors, de ce pas, pour ne pas perdre de temps, je passe la parole à Armel Bozoc, chargé de projet Boutique des Sciences, qui va vous raconter un petit peu, rappeler en quelques mots, la spécificité de la Boutique des Sciences de l'Université de Lyon.
Alors, merci Florence. Je vais partager mon écran. Je pense que c'est celui-là. Hop. mode diapo, ce serait mieux. Ah, j'ai une alerte sécurité.
Parfait, là on le voit, c'est bon.
D'accord. Alors moi, je vais vous, du coup, bonsoir à tous. Moi, je vais vous présenter le dispositif de la boutique des sciences de manière très pragmatique, hein, avant de laisser la parole à Hélène qui nous parlera de l'étude d'impact en détail. Alors, pour resituer le projet, je vous donne quelques chiffres qui concernent notre environnement. Donc, la boutique des sciences, c'est un dispositif de l'Université de Lyon, qui est elle-même une commu, c'est-à-dire une communauté d'universités et d'établissements qui agit sur le territoire de Lyon-Saint-Étienne. Elle est structurée, cette commu, autour de 12 établissements membres. Donc, on retrouve les universités, Lyon 1, Lyon 2, l'ENS, l'INSA, et puis des établissements associés comme l'INSERM et puis d'autres. Des grands projets sont menés à destination de ces établissements, que ce soit des projets immobiliers, de formation, des projets internationaux, des projets de médiation scientifique, de recherche participative, comme la boutique des sciences. Quelques chiffres importants, comme on peut le voir, le nombre d'étudiants, 154 000 étudiants à la rentrée 2018-2019, 6 800 chercheurs, 5 000 doctorants, donc ça représente tout ça un environnement qui est assez grand. Le dispositif, il est au sein de la direction Culture, Sciences et Sociétés. Donc celle-ci, elle est là pour favoriser le lien entre le monde de la recherche et la société civile. Donc, au moyen de 10 personnes déjà. Donc, pour la plupart, ce sont des chargés de projet avec des compétences en médiation, en organisation d'événements, en coordination de projets. Elle est structurée autour de 3 pôles. Donc, le partage et la diffusion des connaissances avec PopScience. Donc, je vous ai mis le lien en bas de la diapo. Je ne sais pas trop si ça se voit très bien pour ceux qui seraient intéressés. Donc, PopScience propose un agenda des activités de la culture scientifique et technique sur le territoire de la métropole de Lyon et du Rhône, des ressources sur les thèmes questionnant les sciences et les techniques, mais aussi l'édition d'un magazine sur la recherche et l'organisation d'événements et festivals. Il y a un pôle sur l'éthique de la recherche avec la plateforme Resetis qui regroupe les actions en termes d'éthique de la recherche donc, et d'intégrité scientifique, comme la création d'un MOOC et un comité donc, qui est animé au niveau de l'Université de Lyon. Et enfin, la dimension donc, de la recherche participative avec la boutique des sciences. Donc la boutique des sciences, qu'est-ce que c'est? Donc la plupart d'entre vous le savent, mais pour ceux qui connaissent un petit peu moins notre action, donc c'est un dispositif qui vise à répondre aux besoins exprimés par les associations. Notre premier public, donc, en proposant principalement des stages de niveau Master 2, des projets tutorés et aussi des challenges créatifs. Donc, on retrouve notre deuxième public, que sont les étudiants qui cherchent une expérience en lien avec une problématique sociétale. Et on stimule également l'écosystème de la recherche participative sur le territoire en permettant aux chercheurs de prendre part aux différents dispositifs, les séminaires d'échange, l'accompagnement des étudiants, la participation aussi aux projets. Notre gouvernance, elle est constituée d'un comité d'orientation stratégique qui est composé des membres de la direction de l'Université de Lyon, de partenaires institutionnels, d'enseignants-chercheurs, personnalités extérieures. Il va se réunir une à deux fois par an. On a un comité scientifique qui est composé d'enseignants-chercheurs, de partenaires associatifs et d'étudiants et qui se réunit deux fois par an. Et un comité de pilotage au niveau de la direction pour mettre en œuvre la stratégie. Donc tout ceci, c'est indiqué sur notre site web, si vous souhaitez avoir plus de détails. Alors, comment est-ce qu'on fonctionne? Vous avez sur le côté une représentation un petit peu des rôles de chaque partie prenante du dispositif ou de comment elles vont pouvoir prendre part au projet. Et on a un calendrier qui est calqué sur celui du calendrier universitaire. On voit ici que pour un projet, le travail il va durer approximativement un an et demi. avec, on va commencer au premier semestre à récolter la demande sociale. Donc, on va lancer un appel à projet en début d'année, généralement en février. Et dans ce même temps, on va animer des ateliers pour faire émerger les problématiques, on va communiquer, on va aider aussi au dépôt des projets qu'on va sélectionner en milieu d'année avec l'aide de notre comité scientifique. À partir de septembre, donc au deuxième semestre, on va rédiger et publier les offres de stage, on va recruter les étudiants. Et on va commencer aussi à lancer les projets tutorés. Au premier semestre du coup de l'année suivante, on va commencer à réunir les différentes parties prenantes. On va commencer aussi à conventionner aussi, à faire les conventions de stage. On va faire de la médiation entre les différentes parties prenantes. On va accompagner les étudiants en leur proposant aussi un suivi et des formations tout au long du stage, par exemple sur la cartographie des acteurs ou alors comment communiquer ses résultats. Et puis on va communiquer, diffuser les résultats, assister aux soutenances. Et tout au long de l'année, on aura des actions comme les séminaires d'échange qui sont proposés par Hélène. On va participer aux événements de la direction. On va d'ailleurs aussi proposer aux étudiants ou aux associations qui prennent part au projet Boutique des Sciences de pouvoir aussi proposer certaines actions de culture scientifique, de médiation, pouvoir parler de leur projet dans ces événements-là. On va communiquer auprès des établissements, du grand public, des étudiants, en présentant aussi le projet Boutique des Sciences dans certaines filières, en faisant des petites formations aussi sur la recherche participative. Et on va également aussi mettre en lien différents acteurs et répondre aux demandes qui ne nécessiteraient pas un accompagnement aussi long qu'un stage, par exemple. Pour finir, quelques chiffres représentatifs de la boutique des sciences. Donc, depuis 2013, c'est 77 associations ou autres organisations, puisqu'on a parfois aussi des entreprises issues de l'économie sociale et solidaire, mais aussi des conseils de quartier, qui ont bénéficié d'un accompagnement. On a 194 étudiants donc, qui sont issus de 40 formations différentes qui ont été impliqués dans les projets. On a eu plus de 100 chercheurs investis aussi dans le dispositif. Près de 10 rendez-vous organisés dans le cadre du séminaire de recherche participative. Et c'est un dispositif qui est soutenu par 4 projets européens, dont l'un est encore en cours. Et puis pour terminer, notre équipe. Donc, qui est composée de Florence, ici présente, qui est responsable de la direction Culture, Sciences et Sociétés, de Cécile, qui est responsable de la communication et des partenariats, moi-même et Hélène, qui sommes chargées de projet, et puis Shailaja Baichu, qui est chargée du projet européen Inspires, justement, qui est sur les boutiques des sciences. Voilà.
Ok, merci. C'est bon pour toi, Armel?
Ouais, tout à fait.
Ok. Alors, si vous avez des questions, merci Armel. Si vous avez des questions de cette présentation très succincte, hein, qui en appellerait d'autres, et puis on a déjà fait pas mal de choses, mais voilà, n'hésitez pas soit à lever la main ou soit à prendre le micro. Alors, je vois qu'il y a déjà une main de levée. Très bien. Alors, allez-y, je vous passe la parole.
Oui, bonjour, je suis Christophe Boutillon. Je suis responsable de la direction de la valorisation de la recherche de l'Université de Lille, qui intègre une activité de recherche participative avec Florence Siena, qui participe également aujourd'hui au webinaire. On vient d'intégrer la boutique des sciences, qui était anciennement reliée à la commune, mais la commune l'île Nord-de-France n'existe plus. Donc, c'est l'Université de Lille qui l'a intégrée. Je vous remercie pour cette première partie de présentation. Très intéressante. Et ce qui m'a interpellé, c'est les financements européens. Je voulais vous demander si ces financements sont dédiés à la recherche participative ou si certains work packages si vous profitez du financement de certains work packages pour faire de la recherche participative avec des problématiques sociétales qui du coup, peuvent fortement intéresser l'Europe.
Alors, sur les projets européens, alors c'est un financement multiple qui va être un petit peu problématique, je ne vous le cache pas, dans les mois à venir, parce que vous connaissez les disparitions des communes, les apparitions, les IDEX, etc. Donc voilà, ça sera un autre sujet. Alors, l'articulation des projets européens par rapport au dispositif, déjà, c'est lui qui l'a impulsé. Hein, il y a quand même une dynamique très forte à l'échelle européenne, notamment avec le réseau Living Knowledge. Hein, et il y a eu un projet européen qui s'appelait PERARES, dont l'objectif était d'essaimer d'autres boutiques des sciences ailleurs. Hein, donc, vous savez, nos collègues hollandais, britanniques, allemands, etc., il y en a déjà partout. Donc, pour ceux qui s'intéressent à ça, je vous invite à aller voir sur le site de Living Knowledge, on pourra le mettre dans le chat, le lien, parce qu'il y a, voilà, effectivement, ils ont impulsé, etc. Après, on en a eu d'autres. Alors, c'est quand même toujours la problématique des projets européens, hein, c'est que ça ne finance pas complètement ce dispositif qui, maintenant, est existant à leurs yeux. Par contre, ils vont financer une partie, un volet. On en a un, par exemple, qui s'appelait Unwich et qui était donc sur les formations. Comment intégrer la demande sociale, des demandes émanant de citoyens comme support de cours. Donc là, comme vous l'a expliqué Armel, on est beaucoup sur des stages, mais par exemple, on a développé la question des projets tutorés. C'est-à-dire que des fois, c'est une classe entière qui va répondre à cette demande. Donc, c'est un autre accompagnement, c'est une autre dynamique. Mais ce qui est vraiment bien, et les collègues ici présents, enseignants-chercheurs, pourront le dire, parfois, pour eux, ça fait aussi un sujet avec un vrai terrain, avec une vraie situation, etc. Hein? Par exemple, aussi, dans ce cadre-là, on avait fait un challenge. Donc, on avait réuni des promotions différentes et pendant 2-3 jours, ils ont été challengés sur l'habitat évolutif. Donc, ça donne des sujets de cours. Après, on a eu un autre projet européen qui s'appelait Nucleus et on a été beaucoup en lien ces derniers temps autour de la RRI, la recherche et de l'innovation responsable, qui était un petit peu le fer de lance du programme cadre Horizon 2020. Je suis désolée, c'est un peu technique pour ceux que… Mais bon. Et donc, et là, par exemple, il y a eu des enjeux autour de l'institutionnalisation de cette démarche de recherche responsable. Et nous, c'était le volet sciences citoyennes à l'intérieur. Donc, dans ce cadre-là, on a développé, on a mis en place des comités d'orientation, etc. À chaque fois, chaque projet européen apporte une petite touche à ce dispositif. Mais par contre, alors je ne veux pas faire la douche froide, mais un projet européen ne soutiendrait pas comme ça, enfin surtout sur les programmes du ministère d'enseignement supérieur, un dispositif qui existe déjà. Je ne sais pas si je réponds à votre question, oui, je pourrais développer encore plus.
Même des financements dédiés à la recherche participative.
Alors, il y a effectivement… Alors, je vais y venir par rapport à mon propos plus politique, justement. Hein. Mmh. J'y reviens. Est-ce qu'il y a une autre question ou remarque dans cette assemblée en distanciel? Alors, donc, la transition est toute faite. Bon, comme l'a indiqué Armel, nous, on est dans une commu. Pour l'instant. Alors, vous savez, voilà, ça peut changer. Mais on est dans une commune. Donc, il y a un enjeu sur la question des territoires. Hein, comme elle le dit, il y a un rassemblement des établissements et que, justement, l'université y est un lieu interlocuteur de ce site académique territorial qui est une porte d'entrée pour les collectivités territoriales, pour les entreprises, etc. Et donc, elle incarne que pourrait être la commune quand elle regroupe. Et donc, la boutique des sciences là-dedans, c'est bien l'idée de dire que, OK, l'université, la recherche, l'enseignement, il y a des enjeux de formation des étudiants, il y a des enjeux de recherche de qualité, il y a des enjeux de ranking, etc. Mais il y a quand même un lien avec le territoire à faire. Hein, quel est, en quoi l'université doit répondre aux besoins du territoire ? Hein, elle doit participer au développement territorial. Donc, de toute façon, je pense que c'est pour le contexte français, mais je sais qu'il y a des collègues, notamment de Côte d'Ivoire, donc je ne voudrais pas qu'on soit que franco-français ce soir, dans la mesure du possible. Mais on voit bien, notamment en France, qu'il y a quand même un côté, l'université doit travailler son ancrage territorial. On ne peut pas avoir des lieux comme ça qui accueillent des milliers d'étudiants, qui a beaucoup d'enseignements chercheurs et qui ne soient pas connectés avec la vie associative, la vie citoyenne, les besoins de connaissance du territoire. Donc il y a un enjeu quand même politique intéressant. Aussi, et la Commission européenne l'a compris, on voit bien que ça bouge un peu autour des sciences citoyennes. On voit bien qu'il y a quand même une volonté de plus en plus, et c'est sain, d'une soif de démocratie, de plus de démocratie dans la production de connaissances, et que les citoyens ont envie aussi d'être partie prenante dans cette production de connaissances. Eux, ils peuvent dire, ben, c'est bien, on va sur Mars, etc. Mais nous, concrètement, sur notre terrain, on a besoin de mesures d'impact, on a besoin d'expertise. Donc, il y a une volonté quand même aussi de la part de la société et des collectivités territoriales que cette université réponde aussi à ses besoins. Aussi, il y a quand même aussi quelque chose de plus profond qui est de dire que la connaissance, elle n'est pas produite que par des experts. Elle est, les citoyens, les usagers, les habitants, etc., ils ont aussi des connaissances, des savoirs, des expériences d'usage, des, voilà. Et puis, il y a aussi un monde associatif qui est très fort, qui peut être très calé sur des sujets. Donc, il y a bien l'idée qu'à un moment donné, c'est pas les chercheurs qui, du haut de leur tour d'ivoire, pour être dans la caricature, vont dire ce qu'il faut faire. Il y a bien l'idée de coproduire des savoirs ensemble. Et ça, la Commission européenne, alors, elle en finance, on pourrait espérer qu'elle en finance plus, hein, parce que à côté de la recherche faite avec du monde industriel, on est quand même sur des budgets beaucoup plus faibles. Mais la Commission européenne voit bien qu'il y a un enjeu science-société. Hein. Et c'est pour ça qu'Armelle est revenue sur la présentation globale de ce que l'on fait. C'est que notre boutique des sciences, elle a un sens si on est aussi sur des enjeux de diffusion des savoirs, au sens large, de nos chercheurs, mais aussi des citoyens, etc., de la valorisation. Et puis, on ne va pas l'aborder ce soir, on n'aura pas le temps, des enjeux éthiques. Hein, parce que qui dit production de connaissances, il y a aussi des questions éthiques qui se posent en même temps. Et ça, les questions éthiques, c'est pas réservé aux experts. C'est aussi les citoyens, est-ce qu'ils ont envie, est-ce qu'on a tous envie d'avoir de l'intelligence artificielle à tous les étages, à toutes les étapes de notre vie? Voilà. Est-ce qu'il y a des nouvelles formes de thérapie avec lesquelles, éthiquement, on est d'accord, hein? Donc, il y a un mouvement de fond qui s'opère, qui est de dire, oh oh, la science, elle doit se faire plus avec la société. Et les instances dirigeantes, nos présidents, nos classes gouvernantes voient bien qu'il faut faire quelque chose, il faut tester quelque chose. Alors, il y en a qui le poussent plus, il y en a qui... voilà, c'est quand même un combat, hein, on est dans un séminaire de réflexion, donc on ne va pas se mentir. Faut quand même tout le temps dire, au fait, et les citoyens, oui, il y a les entreprises, mais au fait, voilà. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose. Ce qui est intéressant, c'est que... la question de... On voit bien qu'il y a quelque chose... Attendez, j'ai perdu le fil. La mesure d'impact. Alors... J'y reviendrai, ça reviendra. Alors, par exemple, l'Université de Lyon a soutenu ce dispositif. Ça fait donc 7 ans qu'on l'a, etc. On a eu plusieurs financements. Mais c'est vrai qu'en même temps, comme pour tout dispositif, on me disait, moi, en tant que directrice, prouvez-moi que ça marche. À quoi ça sert, votre truc? Est-ce que ça a un effet important? Donc, on ne passe pas à la trappe, et ce qui peut se comprendre, de dire quel est l'impact de ce dispositif. Et prouvez-moi qu'il a un impact. Donc ça, c'est une question qui nous dépasse, qui ne va pas que sur la science citoyenne, vous le savez tous, mais il faut déjà rendre des comptes. Bon, ça, à la rigueur, c'est de la transparence démocratique, hein, c'est bien, mais prouver qu'on a de l'impact. Alors, c'est comme pour le monde de la culture, prouver que quand il y a une bibliothèque dans un quartier, les gens sont plus éduqués, c'est pas si simple, hein. Prouver que quand on a un musée qui coûte cher, parce que ça coûte de l'argent ces dispositifs, prouver que ça a un impact, vous connaissez la question, elle est complexe. Alors, c'est pour ça que nous, et ça je pense que ça rejoint vos problématiques, on a eu de la chance de se dire, bon, ok, on fait des projets, on a des lieux de réflexion, c'est ça que je voulais dire, hein, c'est que cette nouvelle forme de science, elle pose des questions méthodologiques, épistémologiques, qui sont encore sur la table, hein, Et ce séminaire y répond entre autres, mais on voit bien quand même que ce n'est pas si simple de concilier les savoirs. Ça pose plein de questions. Mais sur cette question de mesure d'impact, c'est comment on le prouve? Qu'est-ce qu'on peut prouver? Alors, quand on a la tête dans le guidon, on est déjà, nous, on est persuadés. Alors, je trouve que ça rejoint de dire, nous, on est tous démotivés. Et je pense que vous tous qui participez à ces dispositifs de recherche avec plusieurs partenaires, on voit comment c'est riche. On voit que la rencontre avec d'autres sphères, elle est intéressante. Hein, justement, le monde associatif, moi, ça m'intéresse que vous disiez, vous, en quoi vous attendez un lien avec les chercheurs. Pour les chercheurs, en quoi c'est super intéressant de travailler avec l'association. En quoi, pour des étudiants, quand ils sont dans ce genre de dispositif, c'est super riche. Parce que justement, ça pose plein de questions, c'est d'autres cadres de référence, c'est d'autres façons de penser les choses, c'est d'autres urgences aussi. Hein. Donc, ça pose énormément de questions. Alors, pour revenir sur notre étude d'impact, le choix qui a été fait, ça a été de dire, on ne va pas être que sur nos discours à nous, que sur nos perceptions, qui nous, on le voit bien que c'est vraiment super riche, mais on veut avoir un expert, un regard, un vrai travail d'étude, un vrai travail d'étude d'impact, même si ce terme est quand même un caractère militaire, donc on pourrait en souhaiter un autre, mais c'est celui qui est utilisé par nos gouvernances. Donc, on a souhaité avoir un chercheur en interne, pour être en plus, si vous voulez, être cohérent avec notre projet, qui est de dire, bah, nous-mêmes, on va faire de la recherche participative avec nous-mêmes. Donc, on a souhaité avoir un post-doc, une post-doctorante qui est incarnée par Hélène Chauveau, qui a été la candidate idéale, et qui a pu justement faire ce travail en interne pour voir justement comment ça marchait. Hein, pour pas avoir qu'un regard extérieur sur « ok, ça marche pas », etc. C'est parce qu'elle l'abordera, tout ça, c'est des enjeux de médiation. Et la médiation, c'est quand même des choses très qualitatives et très difficilement mesurables, hein, et que c'est éphémère. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un gros travail de mise en relation étudiant, association, chercheur, mais quand ça marche, tout ce travail-là, il est plus visible, alors qu'il a été essentiel. Hein, donc, on a donc souhaité avoir cette étude. Et juste pour terminer, là, c'est là où on s'est dit, mais quelle est la méthode qu'on peut utiliser? Et je dois dire que ça nous a un petit peu bousculé et c'était bien pour nous du monde universitaire parce que, comme l'expliquera Hélène, on a dû faire appel à un cabinet extérieur qui était beaucoup plus habitué à travailler cette histoire de mesure d'impact avec le monde associatif ou le monde culturel et pas le monde universitaire parce que ce n'est pas les mêmes critères. On n'est pas que sur des listes de publications au niveau rang A, etc. On était sur d'autres approches d'appréciation. Et que, pour nous, c'est un changement de culture, mais qui est nécessaire. On y reviendra, si vous le souhaitez, après, par rapport à ça. Hein. Mais j'insiste, c'est vraiment... et je le vois, nous, on rentre dans une logique un peu de mécénat, hein, et je trouve que c'est complètement une autre façon d'appréhender nos dispositifs. Hein. Nous, des fois, acteurs de la médiation, on fait des choses, on en est convaincu, on est dans l'offre, et là, il faut qu'on fasse un pas de côté en disant, mais en fait, à quoi ça sert tout ça? Et c'est pas si simple que ça. Hein, je sais pas si ça fait écho à vous, à certaines de vos expériences, mais nous, ça nous a un petit peu bougé. Et c'était bien. OK pour vous? Donc, je passe la parole à Hélène Chauveau qui va vous rendre compte de cette étude d'impact. Et après, on sera sur les témoignages et la discussion. Je te passe le micro, Hélène.
Merci beaucoup, Florence, pour cette contextualisation optimale. Donc, moi, je vais vous présenter tout d'abord, donc avant les témoignages des différentes parties prenantes, un petit peu la méthodologie que j'ai utilisée, mise en place, et puis également un des résultats principaux et transversaux, qui est cette notion de mise en lien et d'accompagnement. Et puis, après les témoignages, je reviendrai sur d'autres résultats, voilà, selon le temps qu'on a et les impacts, etc. Mais voilà, de toute façon, le document aussi final sera disponible pour discussion. Donc voilà, en termes de contexte, de but et de méthodologie de l'étude, donc Florence l'a un peu rappelé, l'idée c'était de faire donc cette étude de ce dispositif lyonnais après 7-8 ans d'existence, donc déjà une ampleur relativement conséquente, à la fois dans le but de formaliser pour avoir plus de visibilité et de reconnaissance, et aussi pour comprendre, pour mieux piloter et accompagner ce dispositif. Donc, comment on a fait donc, cette étude d'impact, elle a été menée, donc, comme Florence l'a dit, par une post-doctorante, donc moi-même, en immersion dans le dispositif et par tout un collectif aussi, puisque, bien sûr, j'ai travaillé aussi avec l'équipe qui m'a accompagnée sur chaque étape de ce travail. J'ai donc eu un accompagnement aussi méthodologique, nous avons eu par le cabinet d'études en impact social qui s'appelle Improve, donc qui nous ont apporté cette acculturation un peu nécessaire à ce travail. Et puis on a eu une dimension particulière une attention particulière à la dimension collaborative, participative et qualitative de l'enquête. Bon, moi-même par ma formation à la base de géographie humaine, et puis parce que voilà, pour être cohérent avec nous-mêmes, on voulait procéder comme ça. Donc en gros, la boutique des sciences a s'est donné trois grandes missions dont ont découlé un peu mes trois axes d'enquête. Donc d'abord, c'est participer au développement territorial en accompagnant les organisations citoyennes. Donc pour approcher ces organisations, j'ai élaboré à la fois un questionnaire auprès de toutes les organisations avec lesquelles on avait travaillé. J'ai mené des entretiens, une concertation aussi avec les organisations qui ont bien voulu donner de leur temps sur les premiers résultats. Et puis une observation participante pendant les ateliers qu'on fait, voilà, que la boutique des sciences fait avec ces associations pendant l'année. Autre objectif, c'est de former les étudiants à une approche différente des liens sciences-société. Donc pour ça, pour les étudiants, j'ai mené pareil des entretiens exploratoires, des questionnaires ante-poste avec les étudiants 2020, même si bon, évidemment, c'est un contexte un peu particulier, donc la validité est un petit peu complexe, mais voilà, on a quand même fait un ante-poste pour cette année, de l'observation participante pendant les formations de l'année, et puis l'élaboration et l'analyse aussi d'un questionnaire pour les 60 étudiants qui avaient bénéficié de la BDS depuis 2013, la boutique des sciences. Et puis, troisième mission, c'est adapter la recherche et donc en décalant les pratiques de production et de diffusion des savoirs dans le monde universitaire en lui-même, donc avec un état des lieux, donc notamment quatre entretiens exploratoires, une revue de littérature, la participation à des journées d'études autour de la recherche participative, c'est voilà, un sujet assez bouillonnant, et puis des entretiens, 14, avec des enseignants-chercheurs, enseignantes-chercheuses qui ont encadré les stages depuis le début de la boutique des sciences. Donc, comment on a procédé exactement? Donc, on a d'abord commencé par faire une cartographie des impacts préalables en octobre 2019, donc ça avec l'accompagnement de ce cabinet d'études. On a ciblé en fait quatre grandes hypothèses de départ. Donc, nous, on voulait tester, notamment côté organisation. C'était le changement du rapport à la production des savoirs, la création de nouveaux savoirs, de nouveaux outils, la prise de recul et l'amélioration de la visibilité. Donc, ça, c'était les impacts qu'on pensait a priori avoir et qu'on voulait essayer de mesurer, voilà, les impacts principaux, même s'il y en avait d'autres secondaires. On ne peut pas tout mesurer dans une étude d'impact. C'est une des premières leçons qu'on a apprises voilà, avec cette méthodologie-là. En termes de déroulé, vous avez la frise ici. Donc, j'ai commencé à récolter les données en janvier-mars, traitement des données en plein confinement en mars-mai de cette année. Puis, on a fait une petite réunion de concertation avec des acteurs en juin. Et puis, cet été, cet automne, ça a été rédaction des résultats et puis une grosse phase de synthétisation. Voilà, pareil, quelque chose auquel je n'étais pas forcément habituée, mais voilà, la nécessité de synthétiser et de diffuser ensuite ces résultats pour voilà, qu'ils infusent aussi auprès des autres acteurs que ça peut intéresser. En termes de récolte des données, donc j'ai eu une démarche à la fois quantitative, donc avec les questionnaires, j'en ai parlé, qualitative, avec les entretiens, j'en ai parlé également, et puis participative, puisque comme j'étais immergée moi-même dans la boutique des sciences, j'ai pu suivre un projet de manière détaillée sur l'année dernière. J'ai participé aux formations, aux ateliers, et puis j'ai organisé déjà depuis le début d'année dernière aussi la saison de séminaire sur la recherche participative. Donc ça a pu alimenter aussi ma compréhension un petit peu de l'écosystème dans lequel et des problématiques dans lesquelles s'inscrivent cette boutique des sciences. Voilà, donc comment on a procédé exactement? Donc on a croisé les hypothèses dont je vous ai parlé avec la caractérisation de chaque projet, notamment côté organisation citoyenne. Et l'idée, c'était de croiser ces éléments pour déterminer des axes d'explication, puis éventuellement d'amélioration de ce dispositif. Donc quelles difficultés et implications il y a eu dans l'application de cette méthodologie? Ça a été d'abord ma posture en tant que postdoctorante au sein de la boutique des sciences. Donc c'est à la fois très riche, bien sûr, puisque voilà, un échange quotidien, une immersion, l'accès à beaucoup d'informations de manière très facile, la possibilité d'observer comment la médiation notamment se met en place et existe. Mais c'est potentiellement, bien sûr, problématique également, puisque voilà, vous imaginez bien que voilà, ça peut aussi mettre... voilà, on peut avoir une posture un petit peu compliquée dans ce cas-là, sur certaines dimensions. Pour le travail, voilà, ça a été aussi un travail statistique et qualitatif à la fois, donc j'ai dû faire aussi un apprentissage et puis un croisement de ces méthodologies-là. Il y a une difficulté aussi à mobiliser, ça c'était un petit peu compliqué, notamment dû à la temporalité et puis l'instabilité des organisations. La boutique des sciences avait perdu le lien avec certaines parties prenantes voilà, depuis plusieurs années, donc ça a été compliqué de recueillir des données un peu plus anciennes. Mais voilà, c'est aussi les aléas de l'enquête. Et puis, j'ai eu un regard critique aussi sur cette notion d'impact. Voilà, je me suis pas mal renseignée sur les écrits, les travaux qu'il y avait pu avoir sur cette notion elle-même d'étude d'impact. Donc, j'ai eu une attention particulière à la dimension normative et injonctive de ce type de processus que peuvent être une mesure d'impact. Et donc, en la faisant de manière immergée et participative, j'ai essayé aussi de pallier à ces défauts-là et ces biais normatifs et injonctifs que peuvent avoir les mesures d'impact habituellement. Donc là, très rapidement, un atout principal donc, qu'a révélé cette étude d'impact, c'est la notion de mise en lien et d'accompagnement, qui est vraiment ce qui est le plus valorisé par les trois parties prenantes des projets boutiques des sciences, donc organisations, étudiants et encadrants universitaires. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'accompagnement selon ces trois parties prenantes-là, parce qu'elles y mettent pas forcément le même sens derrière. Pour les organisations, c'est avant tout la remédiation en cas de conflit avec l'étudiant, l'étudiante, l'enseignant, l'enseignante. C'est une aide en amont, une aide en aval et puis une prise en charge administrative et financière qui est non négligeable. Pour les étudiants et étudiantes, c'est également une remédiation. Également la formation qui est très importante et très valorisée, la mise en réseau avec d'autres étudiants, d'autres associations, etc. Et l'aide à la diffusion et la communication de leur travail. Et puis pour les encadrants, encadrantes universitaires, c'est principalement, d'après leur témoignage, d'être mis en lien avec des acteurs nouveaux et puis de gérer le lien avec les organisations et le volet administratif et financier. C'est non négligeable également pour eux. Et puis selon les témoignages, donc cet accompagnement, qu'est-ce qu'il garantit pour ces deux parties prenantes-là? Il garantit en fait la dimension participative. Voilà, il ne suffit pas de le décréter, mais le fait qu'il y ait une médiation, ça permet que le projet soit plus participatif. Et puis ça permet aussi l'effectivité et la fluidité des liens avec les organisations, donc via notamment la formation des étudiants aux méthodes participatives et aux approches, à ces postures-là, aux problématiques que ça peut poser, via le savoir-faire en médiation des chargés de projet, via la mise en lien initiale aussi ou la réorientation des questions, c'est-à-dire que voilà, on ne se retrouve pas avec des questions qui ne sont pas traitables par exemple par un étudiant ou une étudiante ou qui ne sont pas avec des associations qui ne seraient pas dans une démarche participative par exemple. Et puis la veille sur le processus et la valorisation qui est valorisée également. Donc juste un petit verbatim d'un étudiant qui dit que l'offre de stage avait été conçue pour une mission d'évaluation, mais qu'on a non seulement répondu à cette exigence, mais aussi créé les conditions pour de vrais échanges entre l'équipe, les bénéficiaires et nous en tant que chercheurs. Et puis pour côté organisation, cet accompagnement, qu'est-ce qu'il veut dire? Il garantit en fait la satisfaction et l'effectivité des liens également avec la dynamique de recherche. Donc en fait, on a vu dans le questionnaire qu'il y avait une corrélation assez forte entre celles qui considéraient avoir été bien accompagnées et celles qui considèrent que le travail répond à la question de départ, qui sont satisfaites, qui estiment que le travail a bien valorisé les connaissances qui préexistaient, etc. Et puis, ce qui est intéressant également, c'est que il n'y a pas de corrélation majeure entre les caractéristiques des associations et leur satisfaction. Donc ça montre que l'accompagnement, il permet cette capacité du dispositif à s'adapter à toute situation et tout type de structure pour mieux répondre à sa demande. C'est aussi une plasticité de la boutique des sciences de Lyon qui est intéressante. Et puis, les structures avaient peu ou pas qui n'avaient pas ou peu de liens antérieurs avec le monde de la recherche sont en moyenne plus satisfaites. Donc là aussi, on peut juger que c'est un résultat de cette place principale de l'accompagnement, parce que des structures qui n'étaient pas forcément proches de ce milieu-là ont pu s'approcher et vivre une expérience intéressante avec ce milieu-là. Donc ces éléments sur la place de l'accompagnement qui ressortent de l'étude d'impact, ils permettent en fait d'alimenter les réflexions qui sont en cours dans le champ de la recherche participative sur le rôle de la médiation, ce que certains auteurs appellent par exemple le tiers veilleur. Et voilà, c'est une base pour des réflexions à approfondir là-dessus. Mais je vais laisser la parole du coup au témoin pour voilà, et puis je reviendrai ensuite après les témoignages sur les impacts du dispositif en lui-même. Voilà, je ne sais pas si on ne prend peut-être pas des questions tout de suite.
S'il y a des questions déjà, des petites remarques. Non, pour l'instant, non. Ok, n'hésitez pas, hein, parce qu'après, c'est vrai que le rapport est dense, donc après, il y a des choses. Voilà, la question, est-ce que l'étude sera rendue accessible? Mais bien sûr qu'elle sera accessible. Elle ne l'est pas encore, Hélène, hein?
Ben non, il faut qu'on valide ça en conseil scientifique, peut-être.
Ouais, voilà. Mais ouais. On a déjà une synthèse. On peut déjà vous.
Oui.
On peut. Est-ce que là, on ne fait pas circuler la synthèse là, tout de suite?
La synthèse, ben, on la mettra en ligne la semaine prochaine. La terminée aujourd'hui. Ouais. Voilà. Que ce soit validé.
Ok, de rien. Très bien. Bon. Merci Hélène. Hein, donc il y a beaucoup plus de choses que ce qu'elle a dit là, mais c'est déjà une base de discussion. Donc effectivement, alors revenons aux acteurs, aux parties prenantes. Donc là, on va passer la parole à des représentants de ces différentes parties, dont notamment donc là une association hein, qui est donc un conseil de quartier, celui de la Croix-Rousse à Lyon, avec Dominique Gilles. Dominique, je vous laisse la parole. Qu'est-ce que vous...
Oui, bonjour.
Bonjour.
Alors, on m'a demandé de dire rapidement un petit peu l'idée de départ, comment ça s'est passé, et puis un petit peu les retours et les résultats hein, de ce travail avec la boutique des sciences. Alors, moi, je représente un conseil de quartier, Croix-Rousse Ouest, donc un des quatre conseils de quartier du 4e arrondissement de Lyon. Alors, simple, le départ, c'était une idée folle, que c'est pas la première fois que ça m'arrive, j'ai lancé courant 2014 dans des réunions de conseil de quartier où je participais en étant retraitée sur le quartier, habitant du quartier. J'avais lancé l'idée de créer une ferme pédagogique. Imaginez les regards des participants au conseil de quartier en disant « bon, une ferme pédagogique à la Croix-Rousse en milieu urbain, c'était un peu bizarre ». Depuis quelques années, bon, ça s'est passé un petit peu dans les idées, mais à l'époque, c'était un petit peu bizarre. Alors, on avait déposé un avant-projet auprès du maire d'arrondissement qui avait trouvé l'idée intéressante, mais visiblement qui demandait à être convaincu hein, de la faisabilité de ce projet. Alors, on avait mis en avant, si je reprends un petit peu le document que j'ai, juste bon, un lieu de formation, de sensibilisation avec des connaissances, des savoir-être hein, sur tout ce qui est environnemental, mais aussi culture, y compris élevage, animaux, etc. Donc, c'était assez ambitieux. Donc, une sensibilisation à l'environnement. Il y avait aussi un objectif dans le groupe de travail qui s'est constitué. On était 6 hein, et pas que des retraités. Hein. Il y avait 2 retraités et 3 jeunes, éducateurs, vétérinaires, une juriste universitaire d'ailleurs, d'accord, et bon, des retraités. On avait vraiment mis l'accent aussi sur un besoin d'animation et d'objectifs de mixité sociale, okay, et de contribuer par tout ça au dynamisme du territoire, enfin des mots à la mode, etc., et renforcement des partenariats avec les acteurs locaux. Ceci dit, ce projet était ambitieux, mais quand même très flou. Hein, comment on fait, qu'est-ce qu'on fait, etc. À ce moment-là, la chance qu'on a eue, moi je coordonnais un peu ce groupe de travail hein, en étant responsable de l'idée que j'avais lancée, la ville de Lyon a proposé au conseil de quartier, alors je rappelle que les conseils de quartier, en tout cas à Lyon, n'ont pas du tout un fonctionnement en association, c'est-à-dire on n'a pas de locaux, on est rattaché à une mairie d'arrondissement qui nous donne quelques moyens, mais enfin il n'y a pas une organisation associative, hein, donc c'est quand même très flou. La ville de Lyon a proposé au conseil de quartier de profiter d'experts, hein, de faire appel à des experts, la boutique des sciences et le CAUE, Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, auquel on a fait appel d'ailleurs juste après. Hein. Donc on a profité des deux offres de la ville de Lyon pour avancer sur ce projet qui était quand même très flou. Donc ça c'était fin avril 2015. Je ne me trompe pas, hein, j'avais pris des notes, mais je ne sais plus où c'est marqué. Voilà, j'ai pris contact tout de suite au cours de cette réunion avec la boutique des sciences à ce moment-là. Et je dois dire que moi, je connaissais l'existence de la boutique des sciences, hein, donc ça ne m'était pas complètement étranger, parce que j'ai travaillé en milieu universitaire. Hein, et je connaissais même l'ancêtre de la boutique des sciences, c'est vous dire. Mais voilà, donc j'ai vraiment apprécié, et le groupe de travail avec moi, hein, parce qu'on a toujours travaillé ce groupe de travail avec un des coordonnateurs de la boutique des sciences, nous a vraiment aidé à formuler notre besoin, qui était, comme je vous l'ai dit, hein, je ne peux pas aller plus loin, très très flou. On avait des attentes sur les aspects éducatifs, sociétals, sanitaires, juridiques, géographiques, d'aménagement du terrain, etc. Donc c'était énorme. Et là, ils nous ont vraiment aidé à préciser. Et puis surtout, moi, j'ai apprécié le fait que la boutique des sciences a pris en charge, voilà, bien sûr, hein, ce que vous avez expliqué, l'offre de stage aux étudiants et le recrutement d'étudiants. Et c'est là que j'étais un petit peu surprise. Moi, j'avais un peu des inquiétudes sur notre projet, ce côté sanitaire. Hein, bon, on avait une vétérinaire dans le groupe, mais enfin, bon, tout ça, c'est quand même un peu compliqué. Hein, et puis, par rapport au domaine environnemental, l'aménagement, les sites géographiques, etc. Et en fait, le choix de la boutique des sciences a été, avec le conseil scientifique, hein, je pense, et puis les candidatures d'étudiants, et le travail qu'on a fait en partenariat avec vous sur définir notre besoin, a été de confier le stage à une étudiante en Master 2 de sociologie appliquée au développement local. Je crois que c'est l'intitulé exact du Master d'alors, en tout cas. Hein, pour faire vraiment une étude de faisabilité et d'impact sur comment serait reçue cette idée par les habitants. Alors, voilà, donc c'était un peu surprenant, mais après coup, je peux vous dire que c'était vraiment la bonne idée. Parce que, bon, je ne vais pas passer sur le détail, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps sur comment ça s'est passé, les résultats, mais je pense que c'est quand même ce qui, et c'était notre besoin, ce qui a convaincu les politiques, hein, parce qu'on avait, bien sûr, hein, car c'est le quartier, on n'est pas une nation, on n'a pas de moyens, on n'a pas de lieu, etc. Bon, entre-temps, on a travaillé avec le CAUE, donc il y avait un lieu adapté qui s'est révélé, voilà, j'avais un peu quelques idées quand même au départ, hein, mais tout s'est révélé tout à fait compatible avec ce projet. Voilà, donc là, première phase, la formulation du besoin, l'offre de stage, le recrutement d'étudiants, bon, ça s'est fait sans nous et c'était très bien, du coup, hein, parce que ça a été très, très concluant. On m'a demandé aussi, hein, j'en ai parlé avec Hélène, c'est de demander un petit peu comment ça s'est passé pendant le stage de 6 mois, voilà. Alors, le constat que j'ai fait, c'est que bon, un conseil de quartier n'a pas de moyens. Heureusement, on a eu l'aide de l'ESP, enfin maintenant ça s'appelle INSP, avant c'était l'IUFM, hein, donc École de formation des professeurs d'éducation nationale, qui est voisine, hein, qui a des locaux à côté sur le territoire du conseil de quartier ouest, hein, je peux dire ça comme ça, et qui a proposé un bureau pour que cette étudiante, Sandrine Hirschler, ait un lieu de travail. Autrement, ça se faisait chez moi, donc ce n'est pas très efficace pour un étudiant de travailler dans un domicile privé. Hein, je crois que c'est vraiment une contrainte pour les conseils du quartier à retenir. Il faut s'organiser pour que l'étudiant puisse travailler dans des bonnes conditions matérielles. Donc l'INSP nous a aidés, a mis à disposition un bureau. Moi, j'étais donc du coup référente, comme on dit, du conseil du quartier auprès de l'étudiant. Et en étant à la retraite, j'étais quand même assez disponible. Donc, il y a un suivi très important, hein, et très agréable, je dois dire, avec Sandrine, hein, notamment au départ. pour l'aider à prendre conscience, connaissance du contexte du projet, les lieux, parce que le quartier ne le connaissait pas forcément, bien sûr, lever les obstacles, la mettre en contact avec les partenaires potentiels qu'on avait déjà un peu identifiés, etc. Donc il y a une mise en contact, etc. Et puis des réunions avec le groupe de travail où elle nous a fait part tout au long de son stage. Des choses qu'elle découvrait, elle nous a apporté beaucoup, des choses nouvelles auxquelles on n'avait pas pensé, hein, et on faisait le point, etc. Donc il y a un suivi régulier, je crois qu'il ne faut pas négliger ça quand on est une asso, hein, ou un conseil quartier ou autre, pour suivre un travail d'une étudiante, surtout de Master 2, hein, c'est quand même pas rien, c'est un stage de 6 mois, enfin voilà. Mais bon, moi je connaissais un petit peu ce contexte-là, donc ça ne m'a pas posé de problème, mais je crois que c'était important de le signaler. Autrement, les retombées, hein, pour faire vite, hein, je vois que le temps passe. Les retombées, eh bien, ça a été vraiment pour nous très important. Ça nous a permis de démarrer parce que je peux dire concrètement que ça a convaincu l'équipe de la mairie d'arrondissement qui, du coup, a soutenu notre projet. Et on a dû, bien sûr, créer une association. Il n'était pas question que la ferme se développe dans le cadre de conseils de quartier ou comme ça. Hein. Donc, on a créé une association qui a été créée en mai 2017. Donc l'année suivante, hein, donc c'était relativement rapide. Entre-temps, on avait eu un lieu, on avait eu le rapport du CAE. Et ça a permis à la mairie d'arrondissement de soutenir notre projet auprès de la ville de Lyon, puisque le terrain qu'on avait en vue est un terrain de la ville de Lyon. Donc ce n'est pas la mairie d'arrondissement qui pouvait décider quoi que ce soit. Et donc l'année suivante, 2018, alors ça paraît long, moi ça me paraissait déjà un petit peu long à l'époque, mais maintenant avec ce qui se passe actuellement, en fait avec le recul, je constate que ça a été en fait très rapide et tout le monde nous le disait, comment vous avez fait pour aller aussi vite, etc., entre l'avant-projet, créer l'association, avoir une convention avec la ville de Lyon d'occupation temporaire d'un site, qui est un site magnifique d'ailleurs, hein, Flore, Hélène a vu, hein, puisqu'on s'est rencontrés sur place, je ne sais plus quand, avant le confinement je pense, on ne sait rien. Enfin, voilà. Donc les retombées ont été très importantes, et notamment à travers, un, la synthèse que la boutique des sciences demande aux étudiants, parce qu'il y a le mémoire de Master 2, bon, que j'ai lu attentivement avec intérêt, mais qu'on ne peut pas diffuser, enfin, qui est quand même un mémoire, ce n'est pas une thèse, mais pas loin. Donc une synthèse d'une 14 pages, hein, qui donne vraiment des choses très concrètes et qui donne quelque chose de très lisible et qu'on a pu diffuser sur le quartier, aux tous les gens intéressés, etc., et aux partenaires. Et puis surtout la restitution orale. Alors moi, j'avais organisé en mairie, lieu d'arrondissement bien sûr, une réunion publique où Sandrine, avec nous, hein, on a co-animé une réunion avec un PowerPoint, enfin bon, chose classique, hein, et une présentation un petit peu de comment ça s'est passé, les résultats, les questions qui se posent encore, les choses à encore à creuser, hein, parce que bien sûr que l'idée à creuser de départ, on avait bien avancé, mais ça ne se termine pas comme ça. Et en plus, bon, ça c'est une pratique que j'avais dans ma pratique professionnelle, j'avais piqué ça aux scientifiques qui font des expositions de posters sur leurs recherches dans les congrès, etc. Et on avait confectionné avec Sandrine, hein, 5 posters montrant un petit peu ce que ça pourrait être, une ferme d'animation pédagogique. On avait avancé sur le concept, hein. C'était plus une ferme pédagogique, c'était une ferme d'animation pédagogique, c'est quand même assez différent. Et ce que ça pouvait être, à qui ça s'adressait, il y avait 5 posters, et puis comment faire, voilà, et voilà, avec le logo de la boutique des sciences, puisque bon, la boutique des sciences avait participé. Donc ça, la restitution, pour moi, ça a été un moment clé au niveau pour la suite. Hein, à la fois les élus, les habitants, les partenaires ont entendu, ont vu effectivement que cette idée de départ, effectivement, qui était un peu loufoque, hein, je dois dire, hein, je l'assume, mais était en fait réalisable et intéressante en termes d'objectifs. Hein. C'était un projet à la fois ambitieux en termes d'objectifs, mais qui pouvait rester modeste en termes de réalisation. Hein, bon, ceci dit, même s'il reste modeste, je suis confrontée actuellement à des contraintes un peu de réalisation, etc. Voilà, donc je pourrais dire plein d'autres choses aussi, mais peut-être mieux répondre à des questions, ou si j'ai oublié de dire des choses importantes que Hélène a repérées. Enfin, je vais m'arrêter là. J'entends pas du tout Florence, moi.
Oui, Florence, ton micro.
Ah, et là, vous m'entendez ?
Oui, oui, très bien.
Voilà. Merci Dominique, hein. Alors vous êtes un peu l'exemple parfait, si j'ose dire. Non, mais de ce qui a bien marché, ça ne marche pas toujours aussi bien, on va être honnête. Voilà, hein, mais ce que vous disiez, vous aider à construire votre projet, à formuler votre demande, ça, le stage s'est bien passé, les résultats, le recrutement a été positif, la synthèse vous a aidé, enfin voilà, et effectivement. Alors, vous voyez, dans l'étude d'impact, ce qui a été le travail qu'a fait Hélène, c'est de dire quand ça marche, ça veut dire quoi ? En fait, c'est quoi là, derrière les critères qui fait que ça marche ? Et donc, pour certaines associations, c'est tel apport. Là, il y a un côté lobbying. Vous avez eu un lobbying politique quelque part, par cette restitution orale, comme vous dites. Ça vous a donné une caution.
Absolument.
Ça vous a donné une caution et puis ça vous a accompagné dans votre projet. Hein, donc, comme l'a expliqué Hélène et on le voit bien dans l'étude, il y a différents gradiums en fait. Hein, et d'effets produits sur des associations. Et sur des associations qui ont déjà plein de projets, ben c'est moins évident que la boutique des sciences apporte beaucoup de choses. Là, pour des associations comme vous, ça a été vraiment, il y a l'avant et l'après, quoi.
Absolument. Surtout que l'association n'existait pas, quoi. Hein. Je veux dire, on a créé l'association grâce à ça. Hein.
Voilà. Donc là, c'est vraiment le plus, quoi. Il y a une question qui est intéressante, je trouve, dans le chat, qui est « Le Page Jardin est une association lyonnaise qui travaille sur l'axe du vivant en zone urbaine. Pourquoi la Croix-Rousse ne s'est pas appuyée sur leur expérience ? Et pourquoi plus la boutique des sciences, finalement ? C'est ça. »
Alors, on avait le contact avec le Page Jardin depuis le départ. Moi, la connaissance que j'ai eue, mais surtout, on a profité de l'opportunité qui nous était proposée par la ville de Lyon, hein, c'est aussi ça le point de départ. Mais la différence, le passe-jardin, c'est surtout des jardins partagés, voilà. Nous, le ferme d'animation pédagogique, il y avait le côté jardin, jardinage, ouais. Et ça, pas de problème, on travaille avec eux d'ailleurs, hein, et puis on a le compost et tout ça, bon, pas de problème. Mais il y a le côté animal, qui n'a pas encore démarré d'ailleurs, parce que là, les contraintes sanitaires sont beaucoup plus importantes. Et donc, dans le passe-jardin, ça ne s'est pas vraiment évoqué, quoi. Mais c'est surtout, en fait, l'opportunité que j'ai saisie, moi, quand la ville de Lyon nous a proposé de travailler avec la boutique d'essence. Voilà, c'est pour ça. Mais le passe-jardin était un contact privilégié. Il y en a eu d'autres, d'ailleurs, mais oui.
Ouais. Alors, ce qui était intéressant aussi dans ce que vous disiez, c'est la nature du recrutement de l'étudiant. Vous vous attendiez pas forcément à cette discipline. Et justement, le rôle du comité scientifique, on le voit, c'est que la question que pose l'association, il l'élève en fait, en disant « mais c'est quoi les enjeux derrière ?» Et ça, c'est vrai que nous qui participons au comité scientifique, et j'insiste, le comité scientifique est tripartite, hein, il y a des chercheurs, mais il y a aussi des assos et des étudiants, fait que derrière la question, qu'est-ce qu'il y a en fait, quels sont les enjeux ? Et des fois, ils nous surprennent. Hein, c'est là où, bon voilà, quand ils sont experts, ils savent, ils ont une vision quand même intéressante. Ouais. Il y a d'autres questions, remarques ? Non, bon, on va continuer dans le témoignage. Hélène, dans l'ordre, je ne sais plus si c'était Pierre Chanel ou Rachel Linossier.
Comme vous voulez, peut-être Pierre Chanel, je vais. Il m'a demandé des slides, donc je vais le.
Donc Pierre Chanel, alors là c'est aussi le super exemple. Hein. Bon, on se fait un peu plaisir ce soir, mais ça fait du bien, parce que lui il continue en plus. Des chercheurs. Alors,
oui, je l'ai choisi pour ça, mais aussi parce qu'il est aujourd'hui chercheur et que du coup je trouvais que c'était intéressant. Et il n'y en a pas tant que ça qui sont devenus chercheurs et avec qui on a gardé le lien, donc c'était intéressant.
C'est à vous,
est-ce
Pierre
Chanel. Qu'il est bien toujours parmi vous ?
Oui, je suis toujours là et c'est super intéressant, je n'avais pas l'intention de partir. Alors, moi je commence par vous souhaiter une bonne année puisqu'on est en début d'année. Et je me présente rapidement, je m'appelle donc Pierre Chanel, je suis jeune docteur en logistique urbaine et environnement. Je suis spécialiste des questions de mobilité urbaine en général et actuellement je travaille comme data scientist chez Primagaz. C'est des questions tout à fait liées même si ça n'en a pas tout l'air et j'ai une partie de mon temps que je consacre toujours à la recherche. Et donc ma formation a comporté une partie formation d'ingénieur et une deuxième partie formation doctorale pour une seconde partie, j'allais dire, et pour faire la passerelle vers cette seconde partie, j'ai dû j'ai bénéficié d'une formation en master de politiques urbaines parce que j'avais l'intention de faire des études doctorales sur la ville et sur les mobilités, justement. Et donc, au cours de cette formation, j'ai bénéficié de ce stage de la boutique des sciences, qui était tout bénéfice parce que, y compris le sujet, l'encadrement, d'ailleurs, c'est de ça que je voudrais vous parler. Il s'agissait d'un stage qui était assis sur une question portée par l'association stéphanoise de cyclistes aussi vélo. Donc, je sais pas, Hélène, si tu peux passer à la slide d'après. Oui. Donc, le stage, oui, tu peux. Voilà, donc, voilà. Il y avait, la question de départ, c'était pratique du vélo en ville, impact sur la santé et cohabitation avec les autres modes de déplacement. Je dois dire que sur la période, sur les 6 mois, et sur avis de l'encadrement, justement, on s'est dit finalement qu'on allait traiter, après reformulation du sujet, qu'on allait traiter la deuxième partie. Hein. Et donc, on s'est concentré beaucoup plus sur la cohabitation du cycliste avec les autres modes de déplacement en ville. Et l'encadrement de ce stage a été tripartite, comme ça a déjà été évoqué pour les projets de la boutique des sciences. Il y avait Jean-Pierre Nicolas du LET, le LED qui est devenu l'AET maintenant, Laboratoire d'aménagement et d'économie des transports, qui est à Vau-en-Velin. Il y a Robin Epp et David Laurence, qui étaient alors chargés de projet à la boutique des sciences, et Christelle Morel-Journel, qui était la responsable du master où j'étais inscrit. On peut passer au suivant. Et maintenant, concrètement, pour vous parler, pour faire mon retour, Je garde à l'esprit, en fait, la question, la thématique du soir. Est-ce que la boutique des sciences constitue en réalité une passerelle vers la recherche participative? Je vous propose de vous concentrer sur ce diagramme qui est à droite, qui est tiré d'un manuel de recherche assez connu en sciences sociales de Luc Van Campenhout et de Raymond Kivi. Et la première partie des trois parties, traditionnellement, d'après ceux-là, hein, d'après ces auteurs, des trois parties de la démarche de recherche, c'est la rupture. Et c'était là la question essentielle pour moi au départ, justement, lors de ce stage. Voilà, j'arrive dans une association qui est militante, et vous savez, si les militants cyclistes, si vous faites un tour sur Twitter encore aujourd'hui, vous savez, ils sont francs, ils sont cash, parce qu'ils veulent leur place, et puis ils ont réussi à obtenir quelque chose, en tout cas, ces 5 dernières années. Et ils savent exactement ce qu'ils veulent. Du coup, lorsque tu t'engages dans la recherche, il y a cette nécessité de l'objectif scientifique qui fait que Tu dois faire la rupture. Dans tous les cas, il faut se départir de ce qu'on pense connaître et établir une base théorique suffisante pour passer à la problématique. Et c'est pour ça que je souligne le premier point que je mets à gauche. C'est nécessaire pour l'étudiant, d'après ce que j'ai compris finalement de cette expérience, c'est nécessaire de se constituer une base théorique assez solide sur le sujet du stage, sur les questions abordées par l'association. Et ça repose en grande partie sur le tuteur scientifique. Et ils m'ont beaucoup aidé, y compris les encadrants de la boutique des sciences. Robert, s'il connaissait bien les sciences, il était docteur. Enfin, il y avait pas mal de gens dans le conseil scientifique qui intervenaient au cours des formations de la boutique des sciences pour nous aider un peu à voir large. Et il y a Jean-Pierre Nicolas, qui est spécialiste des mobilités, qui était le référent scientifique retenu pour m'encadrer, qui m'a beaucoup aidé à voir aussi très large. Et ça m'a aidé à prendre du recul pour comprendre que, oui, aussi vélo, ils sont des cyclistes, ils veulent quelque chose, mais à côté de ça, il y a la question de la mobilité globale, et moi, je ne devrais pas être partisan. C'est d'où le titre que je mets. Est-ce qu'il faut être dans ou avec? Et cette casquette un peu objective me servira beaucoup par la suite, je vais vous dire. Donc, le deuxième point, c'était qu'il faut pouvoir dissocier les objectifs de recherche des objectifs de l'association, c'est ce que je disais. En même temps, il faut que ce soit bien vu, donc il faut être diplomate, il ne faut pas vraiment s'opposer. Et là, je remercie le président de l'association, Florent Mismet, qui avait compris ma posture dès le départ et qui avait dû sensibiliser tout le monde de son bureau et les membres actifs de l'association à dire « Nous n'allons pas être dans un mode revendicatif, on va suivre un peu ce qu'il propose Pierre Chanel parce que au moins lui, il aura le crédit de l'objectivité scientifique. » Pourquoi ça prend sens? Parce que voilà, on débarquait en 2014 sur une question, la mobilité cyclable. À Saint-Étienne, c'était encore plus ou moins émergent. Et après les élections municipales de 2014, Saint-Étienne avait basculé à droite. Vous voyez bien que une association de cyclistes avait moins ses passes droits vers une municipalité qui avait été perçue. Hein. Je dis perçue, ce n'est pas forcément que c'était réel ou pas. Mais une municipalité qui avait été perçue comme mettant en place une politique très favorable à la voiture en centre-ville. Il y avait des rues, par exemple, rue du Grand Moulin, je me rappelle, à Saint-Étienne, qui avait été ouverte à la voiture pour accéder directement à la place d'Orient, donc au centre-ville de Saint-Étienne. Il y avait pas mal de signaux comme ça. Et du coup, les cyclistes ne pouvaient pas forcément être plus introduit, mieux introduit qu'un étudiant encadré par le LET et qui vient avec une casquette purement objective. Alors, à côté de ça, il faut aussi prendre en compte les savoirs non académiques qui sont portés par les associations et qui sont super importants. Et c'est là, je trouve, qu'on est vraiment en contexte de recherche participative parce que, oui, il faut pouvoir les prendre en compte et les valoriser et les intégrer dans la construction commune qu'on est en train de faire dans ce projet. C'était la question justement parce qu'ils ont énormément apporté. Ils connaissaient le terrain, ils connaissaient beaucoup de choses sur la question et ajouter cela à la capacité à faire la part des choses que j'évoquais au premier point, ça permettait d'aller loin. Donc, au deuxième point, je parlais de la dissociation des objectifs. C'est une contribution essentielle que constitue l'objectivité scientifique pour l'étudiant. L'étudiant apporte ça surtout dans le projet. Pourquoi? Parce que dans mon cas, j'ai pu accéder à pas mal d'institutions, j'ai pu discuter avec les gens au niveau de la municipalité, au niveau de Saint-Étienne Métropole, et on a pu voir quand même, je me rappelle encore Madame Lacour qui était adjointe à la mobilité à Saint-Étienne, qui n'était a priori pas du tout accessible aux questions du vélo et qui finalement arrivait à discuter avec moi, avec laquelle on a pu parler et intégrer aussi vélo dans la mise en place concrète de la zone 30 à Saint-Étienne, qui est aujourd'hui pratiquement quelque chose de bien vécu. Et donc, je me rappelle encore que lors de ma soutenance, la soutenance de ce stage, en fait, ils avaient mentionné sur le procès-verbal de soutenance que Pierre Chanel avait été un passeur de l'association au civil auprès de la municipalité. Mais ça, je ne pouvais pas apporter plus de contributions que ça, alors qu'au départ, en fait, ma prudence un peu, je veux dire, cette audace de rester purement objectif n'était pas super bien vue. J'avais refusé d'intégrer aussi vélo. J'avais dit non, c'est pas le moment, après le stage, etc. Au départ, on m'avait dit, mais c'est pas bien pour la collaboration et tout. Mais finalement, ils ont compris que c'était super intéressant. Alors, eux, qu'est-ce qu'ils ont apporté? Ils ont apporté tout pratiquement. Le terrain d'étude, ils le connaissaient. Et en général, c'est l'association, lorsqu'on doit, si c'est vraiment d'une étude qu'il s'agit, c'est l'association qui vous l'offre. Et moi, c'était mon cas en tout cas. Et puis, non seulement ils ont proposé un terrain d'étude dans le sens de recherche scientifique, mais ils maîtrisaient vraiment le terrain. Ils savaient où aller, où ne pas aller. Et je me suis appuyée dessus. La plus logistique aussi. Mais je dois signaler, suite aux propos tout à l'heure, que par exemple, dans mon cas, c'est Jean-Pierre Nicolas qui a pu négocier un bureau à Vaux-en-Velin pour moi, pour que je travaille à plein temps au LAET. Quand je le souhaitais, quand j'étais pas directement sur le terrain au siège de l'association. Donc, à côté de ça, ils ont apporté aussi leur réseau. Et le réseau, c'est aussi super important, y compris pour la recherche, mais aussi pour l'aboutissement du projet. Parce que le projet, c'était peut-être un projet de recherche, mais c'était aussi un projet de faire connaître un peu les mobilités cyclables à Saint-Étienne. Et ça, la communication, les formations à la communication de la boutique des sciences et les formations à la restitution de ce qu'on a pu obtenir ont été super importantes. Grâce à ces formations, je me rappelle, j'avais animé une conférence lors de la session plénière de la Fédération des usagers de la bicyclette qui se tenait, un heureux hasard, on va dire, qui se tenait à Saint-Étienne cette année-là. Et j'avais présenté mes résultats au cours de cette session qui a été super bien accueillie, y compris par les élus. Et donc, globalement, je vais dire oui, la boutique des sciences, en tout cas à travers ces stages, permettent de s'introduire un tout petit peu dans la recherche participative, mais déjà dans la recherche tout court, et permettre en même temps de gagner pas mal d'autres atouts pour les jeunes étudiants que nous sommes, qui ne maîtrisions pas encore grand-chose. Du coup, c'est un peu ça. Je ne sais pas si j'ai pu dire ce qui était attendu, mais je peux répondre à quelques questions.
Ouais, il peut y avoir des questions. Non, merci Pierre Chanel, c'est exactement ça. Moi, je rajoute que là, vous, ce qui est intéressant, c'est que vous aviez une maturité tout de suite pour savoir quelle posture vous deviez avoir. On a eu aussi, nous, dans le passé, des sujets où l'étudiant a eu du mal à se positionner. On a eu des étudiantes qui, à un moment donné, étaient militantes de la cause qu'ils devaient analyser. Hein, voilà, il y avait un dysfonctionnement dans l'association, ils devaient analyser l'association, elles étaient et parce que c'est compliqué, parce que la posture elle est super compliquée. Ouais. Et nous justement pour la qualité autant qu'on le peut, hein, c'est là où la question de la mesure d'impact elle est complexe parce que c'est quand même des dispositifs hyper qualitatifs. Quand ça se passe bien, c'est super. Mais c'est vrai qu'il y a vachement d'ajustements à avoir entre guillemets. Et là, on l'a pas trop évoqué, mais on fait des formations avec les étudiants. Et maintenant, on a fait évoluer nos formations où justement, à un moment donné, ces étudiants, on les fait réfléchir sur ça veut dire quoi apporter de l'objectivité? C'est quoi le rôle d'un chercheur dans un problème comme ça? Hein, et c'est tout l'enjeu. Et je rejoins ce que dit Je t'aime dans le chat. La question, c'est en quoi un regard d'expert scientifique apporte des éléments plausibles pour tout projet? Et que, justement, on attend bien d'eux qu'ils soient sur de l'expertise scientifique. Et ce qui n'est pas facile, parce que parfois, nous, par exemple, aussi, on a eu des étudiants, les premiers résultats n'allaient pas dans le sens de ce qu'attendait l'association. Donc, ils commençaient à remettre en question. Et parce qu'ils étaient jeunes, les associations faisaient aussi pression. Hein, on est vraiment au nœud de la place du chercheur dans la société. Dominique, je vous passe la parole.
Oui, rapidement, juste pour ce thème de l'objectivité scientifique, je me souviens, je crois que j'en avais parlé avec Hélène, que Sandrine, notre étudiante, qui était très motivée, c'est pour ça aussi qu'elle avait été choisie hein, pour faire ce stage, est très militante sur le côté écologie, voilà, sensibilisation à l'environnement. J'avais été amenée à discuter avec elle en lui disant, mais tu sais, Sandrine, elle faisait des questionnaires, hein, c'est une approche sociologique, donc elle avait le contact directement avec le public. Je lui dis, je l'avais aidé un peu à s'installer et tout ça, et je lui disais, il ne faut pas qu'on sente que tu veux les convaincre que notre projet est intéressant. Elle était d'accord, mais elle avait du mal. Et ça s'est très vite. Moi, d'ailleurs, je crois qu'elle me souvenir que dans son mémoire, elle en parle, qu'elle avait dû vraiment se repositionner, reprendre une posture hein, d'enquêteur neutre. Et ça, je trouvais ça très, très intéressant. Enfin, moi, je l'avais constaté assez vite, mais c'est aussi ma formation, donc c'était pas nouveau pour moi. Mais je trouvais ça très intéressant, et que notamment de voir un étudiant qui, sur le terrain, apprend justement, parce que, comme vous le dites, hein, c'est pas facile cette neutralité scientifique sur certaines thématiques, etc. Enfin, voilà, donc je voulais juste.
D'où le rôle du tuteur, hein, qui est là aussi, et de décharger de projet de la boutique des sciences. Hein, la boutique des sciences, elle facilite l'immersion des étudiants dans des réalités sociales, ouais, par tout ce qu'on a développé, mais elle est aussi un lieu de mise à distance s'il y a besoin. Hein, on s'est retrouvés, nous, des fois, à dire, il y a des étudiants, ils peuvent plus faire le stage sur place, parce qu'il y a des jeux d'acteurs très forts. Ouais. Et juste, avant de passer la parole, parce que la question des ressources, elle est vraiment, la question des tuteurs, elle est vraiment importante, Attendez, j'ai perdu le film. Ce soir, j'ai la mémoire qui flanche.
C'est la complémentarité des rôles des différents tuteurs de l'université, du master, de la boutique des sciences et du tuteur ou référent, je ne sais pas comment on l'appelle, du stage, enfin de l'association ou au cause de quartier. On a une complémentarité qui ne va pas toujours dans le même sens. Il se trouve que je l'ai alertée très vite et elle a eu le même écho, bien sûr, de ses tuteurs hein, de la boutique des sciences. Et je trouvais ça très intéressant et formateur pour elle.
Ouais. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'en plus, nous, on le voit dans les sujets que l'on recueille, c'est que c'est des sujets chauds, des fois. C'est-à-dire qu'on met des jeunes sur des sujets, il y a la question des déchets, vous voyez, comme vous le disiez, Pierre Chanel, la question de la mobilité, ce n'est pas des questions simples. Parce que ces questions reflètent, pour nous, moi je dis, on le dit à la boutique des sciences, on est un capteur de la société qui se cherche, qui évolue, qui produit, qui innove, qui teste, et qui, voilà. Et donc, il y a des fois, il y a des questions très écologiques, des questions de mémoire, des questions, on a beaucoup de choses aussi sur l'accompagnement des patients, des malades, donc il y a des sujets qui sont, qui c'est complexe. Et un dernier point, puis après je passe la parole, la question de la motivation des étudiants. Je pense que mes collègues hein, chargés de projet, Hélène, Armel, diraient la même chose. Les étudiants qui postulent à la boutique des sciences, ce sont des très bons étudiants. Parce que justement, c'est des étudiants qui ne suivent pas leurs études pour suivre leurs études. Ils savent déjà là où ils veulent aller. Et ils ont des valeurs, ils ont envie d'être utiles à la société. Ils ont, donc effectivement, on a des très bonnes productions. Juste, alors je reprends, et puis Bertrand, bonjour, toute l'équipe de la BDS, n'est-ce pas aussi l'enjeu de l'accompagnement que de garantir que chaque partie prenante joue son rôle? Avez-vous des outils pour cela? Je vous dis, la formation, de discussion, elles accompagnent, hein, il y a régulièrement des entretiens, etc. Alors, vous voyez, sur la question de l'impact et sur la question de la gouvernance, moi, il faut que je le justifie ce temps passé. Et ça... dans notre société où tout doit aller vite, que ça doit aller de soi, et puis qu'on utilise tous des grands mots, la coproduction, la collaboration, oui, bah, ça demande du temps. Et que, donc, y a des fois, c'est compliqué à le faire valoir, d'où le travail qu'on a fait et qu'on va nous utiliser maintenant comme lobbying pour dire, oui, ça demande du temps, mais c'est positif quand ça fonctionne bien. Monsieur Goy, à propos de l'objectivité, l'explicitation des référentiels implicites en général des quatre parties étudiants, EC, BDS et ASSO, n'est-elle pas un biais de travail de cette objectivité? Je n'ai pas compris, monsieur Goyer, vous pouvez l'objectivité, l'explication des référentiels implicites.
Oui, parce que très souvent, on est dans la situation où les quatre parties, et je tiens à faire la mise en présence des quatre parties, hein, c'est-à-dire que c'est un écosystème qui est constitué.
Ouais.
Et implicitement, chacun de ces acteurs de cet écosystème a ses objectifs et ses référentiels et son référentiel.
Tout à fait.
Et donc, il n'est peut-être pas inintéressant d'essayer d'avoir un temps de travail qui essaye de mettre à plat ces quatre objectifs et ces quatre référentiels.
Tout à fait.
Alors, pour répondre à cette question-là et celle de Bertrand, tout à fait, on a des outils, nous, qu'on utilise pendant les réunions tripartites, quadripartite, du coup, avec nous, mais voilà, nous, on fait les médiatrices entre, là, je parle en tant que chargée de projet plutôt, mais voilà, et on essaye de, pour l'instant, on n'a pas vraiment formalisé ces outils-là, c'est un travail qui est en train d'être fait et qui sera mis d'ailleurs en ligne sur le site quand il sera prêt, mais voilà, les outils qu'on utilise, les ateliers, les jeux qu'on utilise aussi parfois pour justement mettre à plat ces impératifs qu'ont chaque partie prenante pour que les autres soient au courant et nous qu'on utilise aussi voilà, pour faire le dialogue et la mise en lien et le passage d'énergie entre ces différentes parties prenantes qui n'est pas facile, mais du coup, c'est ce à quoi on sert en fait, surtout quoi. Surtout quand ça se passe mal, parce que là, on n'a eu que des cas où ça se passe bien, mais voilà, c'est surtout quand...
Comme toujours.
Oui, je voulais juste ajouter, et puis en partie pour répondre justement à Bertrand sur cette question-là. Pour moi, j'ai l'impression qu'une une des forces de la boutique des sciences de l'Université de Lyon, c'est qu'on est aussi dans un centre de culture scientifique aussi, et on s'appuie sur cette expérience-là. Et comme Dominique aussi l'a dit tout à l'heure, la synthèse et la restitution orale avaient été très importantes aussi pour parler du projet et peut-être pour convaincre. Et moi, je trouve que c'est une des forces justement qu'on a de pouvoir se servir de nos événements de culture scientifique, des outils qui ont été développés aussi dans le service et du coup de cette communication, de cette culture-là, en fait, on s'en sert aussi beaucoup à la boutique des sciences. Donc ça, c'est...
Ouais, la culture de la médiation, quoi, effectivement, avec les outils. Merci Armelle. On va passer la parole tout de suite à Rachel Linossier, qui là, on va avoir le point de vue de l'encadrant.
Oui, merci. Alors, pour aller peut-être rapidement vers le débat de nouveau, je tiens à préciser quand même que je parle effectivement du point de vue de l'encadrant, mais avec une casquette plurielle en fait, parce que je m'occupe moi de la. En fait, si j'ai été amenée à encadrer des stages de la boutique des sciences. C'est à la fois parce que je suis enseignant-chercheur dans un master et donc on a des étudiants qui ont répondu, et dans ce même master je coordonne les stages aussi en fait, donc j'ai déjà cette double casquette du côté de l'enseignement, et ce qui m'a aussi amené du coup à encadrer des stages parce qu'il fallait quelqu'un encadre, hein. Alors je vais peut-être avoir un discours un peu moins positif d'une certaine façon sur le dispositif, ou en tout cas il me semble qu'il y a des choses la dernière chose, bon, je suis chercheuse par ailleurs, mais en fait je n'ai jamais encadré moi d'étudiants du coup sur des thématiques de recherche qui sont les miennes. Je les ai encadrés parce que je coordonnais les stages dans ce master là et parce que, en l'occurrence, il fallait que quelqu'un au sein de l'équipe du master s'en charge à la demande, plus ou moins expresse, des chargés de projet de la boutique des sciences. Et la dernière chose que je veux préciser, parce que ça me semble, c'est ce qui fait que moi j'ai du mal aussi à démêler en fait le bilan que je peux faire. C'est que le master dont il est question me concernant, donc c'est un master urbanisme aménagement. Avec donc, je dirais, comment dire autrement, dans le cœur même des thèmes et du champ dans lequel on forme, auquel on forme les étudiants, je dirais, on croise quasiment la plupart des thématiques qui sont celles abordées, en tout cas une grande partie, et je dirais même la question de la participation et de la place des citoyens, etc., dans la gestion, la production de la cité. C'est au cœur de nos de ce à quoi on forme aussi les étudiants. Donc voilà, je voulais quand même rappeler, enfin poser ça au départ, parce que je pense que j'ai peut-être pas le, enfin j'ai peut-être un regret, enfin moi j'ai du mal à faire un bilan en dissociant ces différents aspects là. Alors ceci étant dit, moi j'ai aussi plutôt pour moi le bilan il est plutôt positif. Et notamment, alors si j'essaye de dresser, enfin de lister pourquoi le bilan il est quand même plutôt positif, c'est parce que justement dans les thématiques des stages qui ont pu être proposés, on a des thématiques qui collent, donc comme je disais, complètement souvent aux attentes, aux thématiques même de ce qu'on aborde dans le master urbanisme aménagement. Que ce soit sur la thématique, sur le type de territoire, sur voilà, j'ai à l'esprit notamment une commande qu'on avait eue sur, notamment qui consistait à accompagner un conseil de quartier à Villeurbanne pour permettre aux habitants d'être plus impliqués dans les documents, dans la production, l'élaboration des plans locaux d'urbanisme. Bon, ben voilà, on touchait au cœur du sujet. Je trouve aussi que c'est plutôt positif parce qu'on est justement sur des stages qui relèvent de ce que moi j'appelle la recherche-action et qui sont aussi d'ailleurs attractifs pour nos étudiants parce qu'en fait, ils ne les perçoivent pas comme de la recherche pure et dure. Voilà, on est dans une forme de recherche appliquée, de recherche embarquée qui est assez proche de ce qu'ils pourraient faire aussi dans un stage au sein d'un bureau d'études. Qui interviendrait dans une logique de marché pour répondre à une commande d'études. Voilà. Et dernier point qui est très positif et qui fait que c'est plutôt attractif aussi pour nos étudiants, c'est qu'on est aussi justement sur des, à la fois un système d'acteurs et des commanditaires, en l'occurrence qui sont des associations, et aussi parfois donc sur des thématiques qui touchent au conseil de quartier, à des mobilisations autour des questions d'agriculture urbaine, de ferme, ce qu'évoquait la dame là, de la Croix-Rousse, voilà, ou d'autres choses, qui collent complètement avec les préoccupations un peu militantes aussi de nos étudiants. Et ça rejoint les derniers points qui étaient abordés, avec donc les risques que ça comporte aussi. Parce que c'est, nous aussi, on est souvent obligés, je dirais même pas que dans ces stages-là, de façon générale, dans les choix de stage et puis même dans les sujets qu'on aborde en cours avec nos étudiants, on est sans cesse en train de finalement d'essayer d'objectiver les choses par rapport à la perception qu'ils peuvent avoir des politiques urbaines, enfin de la façon dont on fait de l'aménagement et d'urbanisme en France, voilà, parce que il y a une dimension militante qui est très forte. En tout cas, c'est pour nous, c'est très en phase avec pas mal de sujets qu'on aborde et qui sont souvent en plus des formes de signaux faibles, des choses qui sont pas forcément, qui vont pas pouvoir correspondre à des offres de stage justement dans des collectivités locales ou dans des bureaux d'études, voilà. Mais qu'on trouve à la boutique des sciences. Alors le bémol quand même que j'aurais aussi moi du point de vue de l'encadrante des stages. Alors ça, c'est, je dirais, c'est pas le fait de la boutique des sciences, c'est plus le fait de la technostructure dans laquelle c'est inséré. C'est que et c'est jusqu'à maintenant, c'était pas toujours très simple pour la mise en place des conventions justement. Et que moi, j'ai eu avec notre secrétaire qui gère elle comme gestionnaire de scolarité, ça aussi, hein, la mise en stage des étudiants, quelques sueurs par moment, voilà. Mais donc, je me sens qu'il faut aussi parler de ça. Il y a quand même toute une logistique administrative qui n'est pas… Et là, les derniers événements autour de l'IDEX et compagnie vont faire ressortir ça aussi. Enfin, voilà. Après, je voulais aussi pointer deux choses. Là aussi, on avait pu en discuter avec Hélène. Et qui peuvent faire écho au débat qui avait commencé à s'amorcer avant. Il me semble que ce qui est compliqué, en fait, et ça rejoint un peu ce que je disais au préalable, c'est que dans les demandes qui émanent des associations, bah, précisément, on est sur des questions qui relèvent de la demande sociale, sinon politique, en fait. Mmh. Et qu'on n'est pas sur des demandes d'expertise ou de recherche qui toucheraient justement à de la, je sais pas moi, aux nanotech, enfin à de la technologie, je sais pas comment le dire, ou à de la chimie, ou puisque précisément cette science participative, je pense qu'il faut arriver à le dire de façon aussi assez honnête et franche. On fait de la science participative d'abord sur des questions de sciences humaines et sociales, et notamment voilà, sur des questions de société. Les physiciens nucléaires ne se sont pas encore préoccupés de savoir comment ils allaient nous intégrer dans leurs travaux de recherche. Et là, je me mets aussi dans la société civile, puisque justement, je ne suis pas une physicienne nucléaire. Donc, le fait même que ça soit de la recherche action, en réponse ou en accompagnement à des problématiques sociales et sociopolitiques, etc., c'est quand même hyper important. Et c'est le fait que, à mon avis, les questions d'objectivité, il ne faut pas se leurrer. On ne pourra jamais atteindre un objectif. Il me semble que c'est compliqué. Alors, il faut avoir conscience de tout ça. Et tout, mais bon. Et l'autre point sur lequel je voulais insister, et là, c'est vraiment le fait que, justement, il me semble qu'il y a aussi quelque chose qu'il ne faut pas négliger dans tout ça, et on le dit depuis tout à l'heure, les étudiants qui sont amenés à participer à ces stages, c'est des étudiants qui sont en master. Et certes, ils font de l'initiation à la recherche, ils ne sont pas chercheurs, et il ne faut pas non plus attendre peut-être d'eux qu'ils soient dans une posture de chercheur. Et que pour moi, et je l'avais déjà évoqué avec Hélène, il me semble qu'il faut peut-être plus revendiquer cette position hybride de ce que propose la boutique des sciences autour d'une logique de professionnalisation, de mise en avant des capacités d'expertise, de produire de la connaissance ou en tout cas de l'expertise, de l'aide à la décision. Et quand on dit aide à la décision, on a quand même tout dit. Encore une fois, on ne fait pas de l'aide à la décision dans des processus industriels, hein. On fait de l'aide à la décision sur des matériaux, là, visiblement, dans ce qui relève de la plupart des demandes de stage, des demandes d'expertise qui sont relayées à travers les stages, sur des questions qui sont, je le redis, des questions sociales, voire politiques. Donc, peut-être l'assumer plus clairement et travailler aussi, du coup, y compris en amont, d'autant plus là qu'en ce moment, c'est peut-être un peu plus fragile du fait de la remise en question de l'IDEX et tout ça, sur... il y a les préoccupations de recherche des enseignants-chercheurs et il y a aussi les spécificités de formation des masters de la place lyonnaise. Et alors, tout ça étant bien sûr adossé de toute façon à de la recherche via les équipes enseignantes, etc. Mais il me semble qu'il y a peut-être une position d'expertise et dans tout ce que ça comporte qui doit être peut-être plus assumée. Voilà, c'est plus
c'est intéressant. Préconisation. Ouais, non, mais c'est intéressant. Après, ce soir, c'était pas tant seulement la situation particulière de Lyon, hein, parce que là, il y a des collègues qui ont d'autres réalités, d'autres complexités, etc. Mais alors, j'entends ce que vous dites et c'est vraiment très très riche et je vous remercie. Après, vous êtes comme vous dites sur des champs thématiques de recherche qui de fait impliquent les citoyens. Nous, on a pu quand même observer des choses où ils sont moins habitués. Hein, on a pu avoir un besoin d'expertise juridique pour une salle de spectacle ou un travail d'hydrométrie dans un espace public ou d'éclairage. Enfin, vous voyez, il y a aussi ce qu'on capte facilement, c'est ces questions très sociales, vives, etc. Et comme vous dites, ça fait écho à ce que vous faites déjà par ailleurs. Et tant mieux, si j'ose dire. Parce que ça veut dire que vous êtes connecté à votre réalité de votre domaine. Mais il y a d'autres milieux où, par exemple, dans le domaine de la santé, on est là pour encourager, et des institutions nationales le font, hein, pour justement, ça veut dire quoi ? Faire de la recherche avec des patients. Il y a des endroits où c'est nécessaire aussi, mais qu'on est là pour encourager ce type de pratique-là. Hein. Donc, alors, sur le positionnement plus revendicatif et l'IDEX, on en reparlera, on est tout à fait d'accord, et l'avenir nous dira de comment se positionner les uns les autres. Mais, et aussi, alors, juste aussi, quand même, il y a une traduction de la recherche participative dans le monde de la botanique, dans le monde de l'astronomie. Hein, parce que, justement, la recherche publique aussi n'a pas toujours les moyens de déployer, d'avoir tous ces capteurs. Enfin, l'astronomie, l'astrophysique a beaucoup aussi été développée grâce à de la pratique amateur. Hein. Donc, il y a aussi d'autres domaines où je modifierai un petit peu, nuancerai votre propos. On devait terminer à quelle heure, Hélène ? C'est quoi,
est-ce qu'on devait terminer il y a 5 minutes, mais voilà. Ouais. Et moi, j'ai encore, je voulais présenter quand même rapidement les quelques résultats, en 5 minutes peut-être, avant peut-être de relancer les débats pour ceux qui veulent. Après, ceux qui veulent partir, partent.
Vas-y.
Mais voilà, juste comme ça, ça fait écho aussi à tout ce qui vient d'être amené par les différents témoins. Du coup, donc ce qui ressort un petit peu de l'étude, c'est une liste d'impacts donc qu'on a pu mesurer un peu sur les différentes parties prenantes, et puis aussi des impacts plus transversaux, trois grands impacts principaux que je présenterai rapidement. Du coup, sur les impacts sur les différentes parties prenantes, donc ça recoupe un petit peu, mais il y en a aussi d'autres qui n'ont pas forcément été dits parce que voilà, c'est dans d'autres projets ou quoi. Donc auprès des organisations citoyennes, l'impact principal, c'est de nouer des liens avec le monde de la recherche et l'université, de bénéficier d'une expertise académique sur le temps long, même si on a l'impression que c'est court, c'est quand même la possibilité de se poser sur 6 mois pour une asso, c'est pas négligeable. La possibilité d'obtenir une réponse à une question de recherche initiale qui est co-construite, la possibilité de re-questionner son action et ses pratiques à travers le prisme économique et académique et éventuellement de les faire évoluer, développer ses outils d'action et de réflexion et disposer d'un moyen de lobbying et de plaidoyer, on l'a vu à travers les témoignages. Et les limites principales qui ressortent de l'étude par rapport aux organisations citoyennes, c'est le manque de lien avec les chercheurs et les labos, qui est jugé comme un peu frustrante par certaines organisations, et puis l'envie d'entretenir un travail sur un temps un peu plus long et puis peut-être plus filé pour certains projets. Côté enseignants-chercheurs, l'impact principal, c'est également de nouer des liens avec les acteurs de la société civile qui sont en demande, parce que ils ont l'habitude de travailler sur le terrain, notamment pour les SHS, mais voilà, là, c'est avec des acteurs qui, eux, ont demandé à ce qu'on travaille sur eux, donc c'est un petit peu différent. Bénéficier de l'appui de la BDS pour se consacrer davantage aux fonctions clés de l'accompagnement pédagogique des étudiants, parce qu'on libère un certain temps d'une certaine manière. Mener un projet de recherche participative, même si c'est d'ampleur très modeste du point de vue des enseignants-chercheurs. Bénéficier d'un terrain nouveau. Et puis, l'intérêt pédagogique du format, du coup, qui a été bien soulevé par Rachel Linossier, qui est aussi... plébiscité. Et du côté des limites, pour les enseignants-chercheurs, c'est principalement la déconnexion avec leurs sujets à eux de recherche et leurs agendas de recherche. Donc ça, pareil, ça a été dit par Madame Linossier, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui ressort. Et puis cette ambiguïté du but du stage, voilà, il y a plusieurs enseignants-chercheurs qui estiment que la boutique des sciences, c'est pas de la recherche. Voilà, alors après, c'est une ambiguïté, c'est un jeu qui est compliqué à jouer pour nous. Et pareil, le fait d'être déconnecté des sujets et agendas de recherche du site Lyon-Saint-Étienne, c'est aussi lié au fait que voilà, on peut pas mener une veille sur tous les sujets, toutes les disciplines qui existent, et que comme on choisit de partir de la demande des organisations citoyennes, bah forcément, c'est pas forcément les mêmes sujets qui sont traités par notre communauté universitaire. Et puis côté étudiant, l'impact principal, ça va être d'acquérir des compétences complémentaires à leur formation et de les mettre en pratique. Notamment pour les étudiants qui sont dans des disciplines de sciences exactes, voilà, ils sont plus formés comme ça à la prise en compte du citoyen, participer à une expérience concrète de recherche participative, après, parce que même s'ils en ont entendu parler, bah là ça leur permet d'en faire pour de vrai, même sur un temps court, appréhender le fonctionnement du monde associatif de l'intérieur et dans la durée. Ça c'est un impact qui est intéressant, c'est que en fait ça casse un peu la naïveté des étudiants sur le monde associatif. Ils arrivent dans le monde associatif en se disant que ça va être merveilleux pour la plupart. Et puis voilà, d'être confrontés là à ce monde-là, ça leur permet aussi d'avoir une sorte d'effet de réalité qui est intéressant. Préparer leur insertion professionnelle ou se penser comme chercheur. J'ai eu plusieurs témoignages d'étudiants qui disaient que voilà, avant de faire leur stage, ils avaient un peu renoncé à l'idée de faire de la recherche, et puis finalement de voir que ça pouvait être comme ça intégré à des questions de société, et ben ça les a convaincus d'essayer de continuer. Donc voilà, on a quelques cas comme ça. Et puis éprouver la place du chercheur face à la demande sociale, voilà, avec toutes les difficultés que Pierre Chanel a évoquées également, avec potentiellement la posture complexe, le problème d'employabilité aussi qui nous a été ramené comme limite. Et puis... juste pour terminer, du coup, rapidement, parce que ce sera plus intéressant d'en discuter. Donc, on a ce grand tableau qui fait un petit peu peur, mais voilà, qui sera rendu disponible la semaine prochaine sur le site, qui répertorie un petit peu les principaux chiffres et puis les principaux grands impacts qui se dégagent, donc plus transversaux, là, pas par partie prenante, mais voilà, c'est orienter la recherche vers les besoins des valeurs, les valeurs de la société. Donc là, vraiment, avec toute l'idée de assurer un lien vital, original et durable entre l'université et la société, répondre à la demande de la société civile, fournir un accompagnement de A à Z par la médiation, favoriser l'engagement social des futures chercheuses et chercheurs, légitimer des postures alternatives à la recherche classique aussi, parce qu'il y a cette recherche de légitimité de ces modes de faire différents dans l'ESR en général. Deuxième grand impact, famille d'impact, c'est autonomiser les acteurs participants, donc voilà, surtout côté étudiant et surtout côté organisation citoyenne, avec la possibilité vraiment d'outiller les associations. Ça, c'est quelque chose qu'elles nous ont vraiment fait remonter. La possibilité aussi d'élargir son réseau, de gagner en notoriété, en crédibilité, de développer sa posture pour les étudiants, de participer à une expérience singulière et de favoriser, là encore, l'engagement des étudiants. Et puis, troisième grande famille d'impact, c'est repenser la façon de faire de la recherche et de produire des savoirs. Donc, évidemment, il faut mettre avant chacun de ces impacts, c'est participer à. On est bien conscient que nous, tout seuls, Boutique des Sciences, on ne repense pas de fond en comble la façon de faire la recherche et de produire des savoirs, mais on participe à montrer que oui, on peut élaborer des nouvelles connaissances par le croisement des savoirs. On a eu voilà, vraiment des retours importants là-dessus. On participe à légitimer les savoirs de terrain auprès du plus grand nombre parce que, comme le disait Dominique, le rôle de la restitution est vraiment important. On joue un rôle d'activateur de recherche participative grâce à ce dispositif qui est quand même inclusif. Certes, on ne va peut-être pas assez loin parfois, mais c'est aussi parce qu'on choisit de travailler avec des associations qui sont parfois éloignées du monde de la recherche. Et puis offrir ce terrain du coup d'expérimentation de la recherche participative. Voilà, bon, je voulais zoomer un peu sur certains, mais on n'a peut-être pas trop le temps. Juste en trois mots, je voulais dire brièvement les suites qu'on va donner aussi à cette étude. C'est que voilà, c'était important pour nous aussi de pouvoir communiquer de manière externe les résultats. Donc en séminaire, en journée d'études, il y a des publications qui sont en cours. Et puis, en interne, on va aussi réfléchir en comité scientifique, stratégique, à partir de ce document, élaborer des outils internes aussi pour le pilotage de ce dispositif. On en parlait tout à l'heure, voilà, essayer de formaliser des choses qu'on fait déjà, mais les formaliser. Et puis, on va faire évoluer sans doute un petit peu nos formations aussi d'après ces différents éléments qui ont pu ressortir. Voilà, j'en finis là. Je suis allée vraiment rapidement, mais voilà, pour pouvoir discuter.
Merci Hélène. Voilà, vous avez un aperçu de tous les résultats. Alors, je crois que là, on vous fait quand même la démonstration par rapport aux éléments du chat où on essaye quand même de formaliser de ce qui se passe. Hein, si là, je rejoins la parole de la remarque de M. Goyer et sur les niveaux, différents niveaux de participation, etc., citoyenne, c'est ce qu'on fait. Hein, justement, on essaye quand même de voir qu'est-ce qui se passe dans ces dispositifs-là et la mesure d'impact. Vous voyez, on a mis les mots, etc. Je ne sais pas si on prend, parce que le temps est aussi compté, et je pense que ça appelle peut-être un deuxième séminaire ou je ne sais pas, parce qu'on voit qu'il y a plein de choses. Peut-être qu'on va clore maintenant, si vous en êtes d'accord, ou Hélène, tu veux... voilà. S'il y a une ou deux remarques. Je vous ai fait peur là, je crois que j'ai eu super, je suis désolée.
Notamment peut-être aux intervenants, voilà, profitez-en. Voilà, nous, vous pouvez toujours nous recontacter par ailleurs, mais voilà, si vous avez des questions sur ce qui a pu aussi ne pas fonctionner ou quoi, enfin, je ne sais pas, les uns les autres.
Bon. Ok.
Merci et puis continuez. On a besoin de vous. Hein, je pense qu'en plus, l'image de l'université. Est vraiment est gagnante dans tout ça. Je ne sais pas si elle en a besoin, mais pardon, je pense que c'est vraiment très important.
Merci. Bon, on va clore maintenant. Merci à effectivement aux trois intervenants. Ça appelle plein de choses. Hein. On est un peu frustrés tous là, mais bon, voilà. On reprendra ces discussions. Tout le travail qu'a fait Hélène hein, de méthodologie, de résultats, de formalisation, de synthèse, tout ça, c'est en ligne. Comme le dit Armel, on a tous nos projets. Si vous voulez suivre notre actualité, nos projets, etc., toutes nos ressources qu'on met en ligne, voilà, vraiment, on a un site complet. Et le séminaire est là pour justement continuer à réfléchir sur c'est quoi la recherche participative, quels sont les impacts, etc. Et on repassera la parole à d'autres collègues au prochain séminaire. Moi, je vous quitte. S'il y en a qui veulent poursuivre, peut-être Hélène, Armel, si vous voulez poursuivre un peu les échanges, moi, je vais devoir vous quitter. Mais s'il y en a qui veulent continuer, il n'y a pas de problème.
Très bien. Merci. Je pense qu'on va clore. On va clore et puis on se donne rendez-vous le 4 février pour le prochain séminaire, du coup.
On va aller écouter les nouvelles du Premier ministre.
Voilà.
Et puis le Royaume-Uni, tiens, on a oublié le Royaume-Uni entre-temps.
Au revoir.
Bonne soirée. Merci.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Merci, au revoir.